don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达姆加
正忙着正忙着正忙
着正忙着
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez cette année encore sur France Culture, tous les jours à 11h, retour donc de Culture Monde sur l'antenne de France Culture après quelques semaines de trêve, cinquième saison donc de votre émission internationale qui, comme chaque année, se donnera pour mission d'aller voir un petit peu ailleurs, au-delà de nos frontières, où on scrutera les grandes évolutions, géopolitiques bien sûr, mais aussi économiques, sociales, sociétales, selon les pays, selon les cultures du monde. Cette année, dans les coulisses de l'émission, on a le plaisir d'accueillir plusieurs nouvelles recrues. Xavier Martinet, qui présentait le journal de la culture, c'était dans le rendez-vous de Laurent Goumard le soir, qui nous rejoint donc en qualité de producteur adjoint, et puis également Tiffaine de Rocchini et Clément Salazar, qui sont également de nouvelles collaboratrices, et puis deux nouveaux réalisateurs dans l'équipe, Perret Legras et Charles Le Gargasson, à qui je souhaite également la bienvenue. On va passer, j'allais dire, aux choses sérieuses pour cette première semaine, première série. On a choisi de parler des combattants djihadistes qui inquiètent un petit peu partout dans le monde, du Nigeria à l'Irak, la Syrie, en passant par la Libye. On se mobilise pour faire le djihad, mais aussi pour le combattre. C'est la série qu'on va vous proposer toute cette semaine, Djihad Mobilisation Générale. Nous parlerons mardi de la question de l'image, de la communication, une arme de haute technologie. Mercredi, nous parlerons des otages. Jeudi, nous parlerons des départs et des retours des djihadistes, les autres lignes de front. Nous allons commencer cette série par la riposte des États.
Allah est tout-puissant et plein de force, et dans la lutte contre ses ennemis, il promet la victoire à ses combattants, et il leur donne la force d'accomplir leurs devoirs. Et si vous voulez obtenir ce qu'Allah a promis, alors rejoignez le djihad à son service. Je dis à l'Amérique que le temps du califat islamique est venu et que nous ne nous arrêterons pas.
J'ai été appelé à prendre une décision importante, grave, qui est de fournir des armes françaises à des Irakiens, des Kurdes, pour qu'ils puissent combattre l'armée de l'État islamique.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people. We will be vigilant and we will be relentless.
Voilà, vous entendiez d'abord la voix d'Aboubakar al-Baghdadi, qui s'est autoproclamé calife Ibrahim, qui a annoncé donc la naissance de ce califat dans cette région à cheval entre l'Irak et la Syrie. C'était à la fin du mois de juin dernier. Vous entendiez évidemment également François Hollande expliquant que la France allait livrer des armes aux combattants kurdes, les Peshmerga, qui sont en première ligne sur le terrain face aux djihadistes. Et puis également Obama, bien sûr, affirmant qu'il allait continuer à faire face à ce qu'il, à faire ce qu'il y a à faire pour protéger son peuple, pour faire face à cette menace djihadiste. Il y a quelques jours, le ministre américain de la Défense déclarait à propos de l'État islamique qu'il incarnait une menace allant au-delà de tout ce que nous avons déjà connu jusqu'à présent, alliant, disait-il, idéologie et sophistication de son savoir-faire militaire, tactique et stratégique, et de surcroît extrêmement bien financé. Nous devons nous attendre à tout et nous tenir prêts, disait Chuck Hagel. Si les groupes djihadistes ont toujours évidemment été pris au sérieux par les États-Unis, par le monde entier, il semble que là, la menace qu'ils représentent aujourd'hui soit sans précédent, en tout cas aux yeux de certains États. Et par ailleurs, le général Martin Dempsey, chef d'état-major des armées des États-Unis, estime, lui, qu'il est impossible de venir à bout de cet État islamique. En tout cas, que si on veut essayer de venir à bout de cet État islamique, il faut également frapper sur le territoire syrien. Alors, quel est le danger réellement? Est-ce qu'il est réellement inédit? Pourquoi? Comment les États vont y faire face? Avec quel type de coalition? Voilà toutes les questions qu'on va aborder ce matin pour en parler. D'abord avec nous en duplex, Myriam Benrad, que je salue, qui est à Aix-en-Provence. Bonjour Myriam Benrad.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse associée au CIRI, vous êtes une spécialiste de cette question des djihad et en particulier dans cette région de l'Irak. Et également avec nous en plateau, Alexandre Dubschefer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, une spécialiste, vous, de la politique étrangère des États-Unis. Les États-Unis, on va commencer évidemment avec ce sujet ces derniers jours. Les drones américains ont survolé la Syrie. On se disait que peut-être c'était là une première étape à quelque chose d'autre, une étape au fond de reconnaissance avant quelque chose de plus direct, d'autant que les États-Unis, on sait, ont frappé au mois d'août certaines positions islamistes sur le territoire irakien. Et puis vendredi dernier, voilà qu'Obama nous explique qu'il ne faut pas s'attendre à des frappes aériennes sur le territoire syrien, en tout cas pas tout de suite. On a l'impression, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, Alexandra de Hubschefer, qu'on est revenu un an en arrière avec cette première reculade où les États-Unis avaient dit « oui, oui, il y a cette ligne rouge, si on utilise des frappes, des armes chimiques, alors on frappera le régime syrien ». On est face à une nouvelle hésitation, une nouvelle reculade, Alexandra de Hubschefer, non ?
Je pense que c'est ce qui caractérise finalement la politique étrangère américaine, notamment sous Obama. J'avais intitulé mon livre « Hamlet en Irak » en 2007 pour décrire la politique du président Bush en Irak.
Mais c'est vrai aux éditions du CNRS. Pardon.
Peut-être que finalement ce titre est toujours d'actualité. Il a eu la phrase malheureuse de dire « les États-Unis n'ont pas encore de stratégie en fait, pour faire face à cette menace en Irak, en Syrie et même plus globalement contre ce terrorisme qui ne cesse de s'étendre sur le Moyen-Orient et ailleurs.
Je vous arrête, vous dites ils n'ont pas encore de stratégie, en tout cas c'est ce qu'ils disent. C'est quoi le problème ? Est-ce que c'est un problème réellement de désaccord ou c'est un problème d'impuissance ? Il y a plusieurs options et finalement on ne sait pas choisir ou en fait on ne sait pas du tout.
C'est les deux. Obama, on le voit depuis le début, résiste, notamment en ce qui concerne la Syrie, aux recommandations de ses proches conseillers. Je rappelle qu'en 2012, le général Petraeus, quand il était encore directeur de la CIA, en même temps que sa secrétaire aux affaires étrangères, donc Hillary Clinton, plus Dempsey que vous avez cité, plus Panetta, lorsqu'il était secrétaire à la Défense, avait soumis un plan justement de recommandations très précis sur le fait que les États-Unis devaient maintenant passer à l'acte, armés, équipés et accompagner ce qui était considéré encore comme l'armée libre syrienne. Obama et ses proches conseillers ont dit non, on ne va pas s'impliquer là-dedans.
Que nous, en Europe, on a été d'accord pour le faire. France l'a dit, la première, et effectivement, les armes vont... Je ne sais pas d'ailleurs si les armes sont déjà arrivées ou pas.
Elles sont déjà arrivées.
L'Allemagne a pris aussi la même direction.
La même décision. Donc du coup, on se retrouve ici avec un président américain qui finalement se rencontre d'une part de l'impuissance en fait, des États-Unis face à cette situation. On voit d'ailleurs que ça ne remonte pas à cette situation-là qui date de 2-3 ans. Ça date depuis... je dirais même l'intervention américaine en Irak de 2003, où dès le lendemain de la chute du régime de Saddam Hussein, en fait, les États-Unis n'ont plus du tout le contrôle des événements politiques, militaires, sécuritaires sur le terrain, qui finalement ont été complètement accaparés par le jeu des acteurs locaux qui se sont engagés dans une lutte sanglante, violente, pour le pouvoir politique et pour s'accaparer les ressources économiques sur le terrain. Donc on a finalement, ici, dans cette phrase même d'Obama qui dit « nous n'avons pas encore de stratégie », je dirais, le résumé de la panne stratégique dans laquelle se trouvent les États-Unis, mais aussi un ensemble de leurs alliés européens et même régionaux qui sont en train de réagir finalement un peu en bricolage, en réaction à l'avancement en accéléré de ces groupes sur le terrain. Et en même temps, vous avez cité le chef d'état-major armé américain Dempsey, qui a très clairement dit on ne peut effectivement pas agir en Syrie, puisque finalement, on le voit très bien, la frontière entre l'Irak et la Syrie aujourd'hui n'existe plus. Et c'est d'ailleurs l'objectif finalement de ce califat, c'est d'abroger cette frontière entre l'Irak et la Syrie. Et donc d'intervenir uniquement en Irak et pas en Syrie, finalement, ne fait pas sens. Mais pourquoi est-ce que Obama aujourd'hui résiste justement à cette idée de déployer par exemple des frappes aériennes sur la Syrie, parce que la Syrie n'est pas l'Irak pour plusieurs raisons. D'abord, en Irak, l'administration américaine a pu s'appuyer sur des relais, que ce soit les Peshmerga, les forces de sécurité kurdes, que ce soit sur les forces spéciales irakiennes que les Américains ont eux-mêmes formées sur le terrain ces dernières années. On peut également s'appuyer sur certaines milices chiites qui du coup se trouvent renforcées également dans leur rôle dans la région. Donc il y a ces relais.
Il y a des acteurs locaux qui permettent finalement...
Voilà. Et puis en même temps, on a un nouveau gouvernement irakien qui lui dit, voilà, je vais former un gouvernement beaucoup plus inclusif. Donc disons qu'il y a ces relais locaux-là sur lesquels les Américains peuvent s'appuyer. Et en même temps, on voit que l'administration Obama dit que toute forme de coopération avec le régime Assad pour lutter contre l'État islamique est hors de question. Le président français français François Hollande également l'a très bien dit devant les ambassadeurs la semaine dernière.
Donc, il n'est pas question de relégitimer finalement Bachar al-Assad, même si c'est...
Non, absolument pas. Et je pense que Bachar al-Assad finalement a été extrêmement astucieux parce qu'il embarrasse toutes les diplomaties occidentales et en premier lieu la diplomatie américaine. Il place Obama devant le choix, en fait, qui n'est pas un choix, de soit soutenir son régime contre l'État islamique ou alors de rester en fait dans cette situation attentiste à regarder ce qui se passe sur le terrain. Et donc si Obama va se décider à former une coalition pour lancer des frappes aériennes en Syrie, la question qui se pose, c'est à qui ces frappes aériennes vont bénéficier ? Est-ce qu'elles vont bénéficier à Bachar al-Assad ? Est-ce qu'elles vont bénéficier à l'Iran ? À qui est-ce qu'elles vont bénéficier ? Et donc là, on va voir cette semaine, notamment en amont du sommet de l'OTAN, une administration américaine qui va essayer justement de s'adresser aux alliés européens et puis avant ça aux alliés dans la région du Moyen-Orient pour essayer de dessiner un début de stratégie qui paraîtrait cohérente et qui ne paraîtrait pas soutenir le régime de Bachar al-Assad.
Myriam Benrad, toujours en duplex depuis Aix, je voudrais vous entendre sur cette question-là, sur cette reculade, je disais reculade des États-Unis. Est-ce que vous comprenez, comment est-ce que vous voyez justement ces hésitations de l'administration Obama ?
Moi, je pense qu'Alexandra de Hubschefer a apporté beaucoup d'éléments. Je reviendrai sur l'épisode de 2003 pour dire qu'en 2003, les États-Unis sont arrivés dans un Irak qu'ils méconnaissaient. Je crois que c'est très clair quand on voit les mesures désastreuses qui ont été adoptées par la coalition et plus précisément par l'administrateur civil américain à l'époque, Paul Bremer, qui d'ailleurs publiait quelques années plus tard ses mémoires. Et je pense que ces mémoires sont intéressantes compte tenu des récits qu'il y fait. Et on voit très bien quelle était l'impréparation à travers sa narration des États-Unis en 2003. Et ce que les États-Unis ont sous-estimé, je pense, c'était le degré d'affaiblissement de l'État irakien. Il y a eu confusion entre un régime autoritaire qui s'était maintenu et un État qui était assez largement défait depuis la guerre contre l'Iran, qui avait fait évidemment essuyer la défaite de la guerre du Golfe et puis ensuite une décennie d'embargo. À tel point d'ailleurs qu'on parlait plus à l'époque d'Irak, mais de République de Bagdad, en référence au fait que finalement Saddam Hussein était assez largement retranché dans la capitale irakienne, avec des périphéries, qu'il s'agisse du Kurdistan, du Sud chiite qui était entré en révolte en 91, ou même des provinces sunnites, qui lui échappaient. Et donc cet état de fait n'a fait que se radicaliser, s'exacerber, en 2003, lorsque la mesure de débasification a été mise en œuvre, qui consistait donc à purger l'Irak du parti Baas et de ses éléments, de ses organes, et qui s'est traduite en réalité par un effondrement de l'État irakien. Alors, la conséquence de cet effondrement, c'est, comme l'a dit très précisément Alexandra de Hubschefer, c'est la prolifération des acteurs informels sur le terrain, qu'il s'agisse des milices, des groupes insurgés, qui vont tout d'abord combattre l'armée américaine et puis qui, au terme du retrait américain, vont s'en prendre aux nouvelles autorités irakiennes, au gouvernement, à ces symboles qui sont devenus les nouveaux ennemis. Alors, pour parler de l'État islamique, c'est un groupe parmi ces acteurs informels.
Je veux juste faire une parenthèse et puis je vous laisse poursuivre. Mais tout à l'heure, Alexandra de Hubschefer rappelait, et à juste titre, que l'ancien Premier ministre chiite irakien Al-Maliki a été écarté du pouvoir pendant les dernières semaines, cet été. Il a longtemps été très critiqué pour d'abord son incapacité à contenir cette menace djihadiste, mais surtout, c'est peut-être ça qu'il faut dire d'abord, beaucoup d'observateurs considéraient que finalement la politique qui l'a conduit a engendré toutes ces violences, toutes ces discriminations à l'égard des sunnites, et c'est ça finalement qui a apporté cette situation-là. Qu'est-ce que le départ d'Al-Maliki cet été change dans cet environnement, dans le paysage djihadiste, cette menace islamiste dans la région ?
Alors là, je vais vous répondre. Il faut revenir sur la question des sunnites qui ont été mises en marge depuis 2003. Ça a été aussi, j'ai mentionné la débasification, l'effondrement de l'État irakien, donc du fait de cette politique américaine d'improvisation. Les sunnites, par ailleurs, effectivement, ont été assez largement identifiés, associés au régime de Saddam Hussein et mis en marge. Ces mêmes sunnites qui, pendant un long moment, se sont présentés finalement comme les derniers tenants du nationalisme irakien contre ce qui était perçu comme une collaboration des Kurdes et des chiites de l'ancienne opposition irakienne avec les Américains. Cette marginalisation, elle est devenue un trait en fait chronique, enfin structurel de la période d'occupation et de ses lendemains, puisqu'à aucun moment il n'y a eu finalement vraiment d'efforts tangibles de réintégration de ces sunnites à la dynamique politique et aux institutions. Et Maliki, en effet, n'a fait qu'exacerber ce schéma, puisqu'il avait promis en 2006 la réconciliation nationale. Il était supposé amener à la table un certain nombre de forces politiques sunnites qui, par ailleurs, avaient des liens plus ou moins étroits avec l'insurrection armée. Et au contraire, on l'a vu, pendant 8 ans d'exercice du pouvoir, il n'a fait que qu'aliéner, que marginaliser ces sunnites davantage.
Et que resserrer le pouvoir à chaque fois. Mais là, en même temps, on l'a remplacé par un autre Premier ministre qui lui aussi est chiite.
Alors, pour vous répondre, aux yeux des djihadistes et de l'État islamique, qu'il s'agisse de Maliki ou du nouveau Premier ministre Haïdar al-Abadi, il n'y a pas fondamentalement grand-chose qui change, puisque ces djihadistes considèrent que le pouvoir chiite qui est installé à Bagdad, la Bagdad califale, la Bagdad des sunnites, à leurs yeux, n'est pas un gouvernement légitime, est un gouvernement mécréant, puisqu'il considère les chiites comme des non-musulmans, des hérétiques. Donc, fondamentalement, il ne faut pas s'attendre à ce que l'arrivée de ce Premier ministre, de ce nouveau Premier ministre, change fondamentalement la donne. Il pourra faire revenir à la table des négociations la frange sunnite modérée, mais certainement pas l'État islamique. Et c'est de ce point de vue, je pense, qu'il ne faut pas se leurrer sur les moyens de lutter contre cet État islamique. Ils sont avant tout militaires, qu'on le veuille ou non, car ces djihadistes ne sont absolument pas dans une logique de négociation et de dialogue sur le plan politique. Il faut être bien clair sur cela pour savoir de quoi on parle. On a une machine de guerre en face qui n'ira absolument pas transiger ou dialoguer avec les chiites, ni même avec les Kurdes.
Donc la solution, elle est militaire, elle est sur le terrain. Et vous dites d'ailleurs que ça pourrait passer par les tribus sunnites d'Irak, qui, pourquoi pas, pourraient finalement se retourner. Mais non, parce que c'est difficile, on ne peut pas dire qu'il y a une alliance, en réalité, entre les tribus sunnites et l'État islamique. Si, on peut le dire comme ça aujourd'hui ?
Alors, les tribus sunnites ont toujours été très divisées, depuis 2003, entre celles qui ont finalement pris... Qui ont pris le parti des insurgés en 2003 contre les Américains et puis d'autres qui avaient essayé à l'époque de favoriser le dialogue pour éviter justement la détérioration de la situation. Ces mêmes tribus qui avaient sous leur contrôle la contrebande de pétrole et qui avaient profité de la chute du régime bassiste pour relancer leur influence qui avait été par ailleurs diminuée au cours de l'histoire par l'État central. Ces tribus, en 2006-2007, se sont alliées de manière circonstancielle avec les Américains justement pour défaire l'État islamique qui leur avait retiré leur autorité dans les localités sous leur contrôle et puis surtout le contrôle de la contrebande. Ce qui est un point très important, on y reviendra peut-être. Aujourd'hui, ces tribus sont toujours divisées, mais on voit effectivement un début de remobilisation de la part de certaines d'entre elles contre les djihadistes au regard des exactions qui sont commises quotidiennement et puis de la politique de terreur qui est celle des djihadistes.
Vous avez un exemple très concrètement
parce que il n'y a pas.
Vous avez un exemple très concrètement où est-ce que ces tribus sunnites.
Vous prenez par exemple
Fallujah, par exemple.
Ramadi et Fallujah, par exemple, c'est une ville où les tribus se sont radicalisées contre Bagdad et ont fait cause commune avec les djihadistes. Pour un grand nombre d'entre elles. À Ramadi, on a des divisions beaucoup plus importantes. D'ailleurs, la mobilisation contre l'État islamique à l'époque, en 2007, aux côtés des Américains, était partie du clan des Risha, Abu Risha, qui était l'initiateur de ce mouvement du réveil, la Sahwa, contre l'État islamique. Donc à Ramadi, les choses sont plus complexes. Mais il en va de même pour d'autres provinces sunnites, où les tribus, finalement, encore une fois, sont divisées. Il n'y a pas, si vous voulez, de coalition tribale à l'échelle de l'Irak contre l'État islamique. Mais on peut dire qu'il y a, comme je le disais, un début de remobilisation de la part de certaines d'entre elles. Maintenant, la question est de savoir si le gouvernement central va réussir à créer un point, un pont de coopération avec ces tribus pour les armées et justement pour relancer cette lutte tribale et plus largement citoyenne contre l'État islamique. Car il s'agit là,
le pouvoir central est prêt à armer justement ces tribus-là.
Mais c'est toute la question. Pour l'instant, c'est beaucoup
trop
tôt
pour
le dire. Pour l'instant, la réponse est non. Mais si les questions, et je l'ai dit dans plusieurs de mes interventions, si les questions de déraciner l'État islamique sur la longue durée et de s'en débarrasser, les frappes américaines, évidemment, ont permis aux Kurdes, on l'a vu récemment, et à l'armée irakienne de reprendre un certain nombre de territoires, mais ça ne suffira pas. La réponse, elle est sunnite. Il faut une mobilisation dans ces provinces sunnites contre l'État islamique, et ça passera par des armes. Parce que pour l'instant, qu'il s'agisse des tribus ou des groupes d'autodéfense qui ont été constitués dès le mois de juin, justement, pour faire front, ces hommes n'ont pas d'armes. Donc ils ne sont absolument pas capables de faire face à un État islamique qui, lui, est surarmé, avec des combattants surentraînés, et on le voit très bien, déterminés.
Ça passera par des armes, vous avez raison, et ça passera aussi peut-être par une coalition, c'est en tout cas ce que les États-Unis considèrent. On va l'aborder dans un instant, mais d'abord, encore un point sur le terrain. On a appris ce week-end que l'armée irakienne avait repris la ville d'Amerli, qui est tenue depuis plus de 2 mois par l'État islamique. C'est vrai que c'est une des rares victoires de l'armée irakienne. On avait plutôt l'impression de voir une armée irakienne carrément à la déroute. Les victoires sur le terrain, c'était plutôt celle des Peshmerga, vous l'avez dit. Comment interpréter ça? C'est un tournant? Est-ce que l'armée régulière irakienne est en train de reprendre le dessus?
Il y a Amerli, c'est un cas spécifique. C'est une des premières victoires, effectivement, de cette coalition qui regroupe donc l'armée irakienne, les Peshmerga kurdes, et puis aussi un certain nombre de milices chiites qui ont combattu aux côtés de l'armée irakienne pour reprendre, pour mettre fin au siège qui avait cours depuis le mois de juin. Donc oui, il y a un début de remobilisation, mais comme je vous le dis, on est encore dans l'embryon, on est encore à un stade préliminaire de cette lutte. Ce sera une bataille de longue haleine. Je ne pense pas que l'État islamique sera défait dans les mois qui viennent. Encore une fois, je pense que là, il faut tabler sur une bataille de long terme. Et vous mentionniez la Syrie tout à l'heure. Aujourd'hui, cet État islamique a sous son contrôle un pan de territoire qui va de la Syrie à l'Irak, qui est continu, qui remet fondamentalement en cause l'approche classique qu'on peut avoir, l'approche étatique, puisque on le voit, on est face à un mouvement transnational qui d'ailleurs ignore et rejette ses frontières nationales. Donc il faudra aussi une stratégie pour la Syrie. Alors Obama a dit dans des termes très clairs qu'il n'y avait pas de stratégie pour la Syrie, mais sans stratégie pour la Syrie, il ne peut pas y avoir de stratégie contre l'État islamique, qui encore une fois est aujourd'hui étalé sur ces deux pays. Voilà la situation, à mon avis, pour le moment. Mais encore une fois, pensez que dans les semaines qui viennent, on pourra mettre à bas cette organisation qui a eu des années pour se structurer, qui a des combattants, comme je l'ai dit, surentraînés, déterminés, qui ne craignent pas la mort, c'est à mon avis un leurre. Il faut voir les choses vraiment sur le long terme, je pense.
Sur la question de la coalition à présent, donc je le disais, les États-Unis, eux, considèrent que pour mettre en échec l'État islamique, il faut d'abord, en effet, on le disait, frapper la Syrie, mais il faut aussi une coalition régionale, une coalition internationale. Ce serait quoi cette coalition? Ce serait avec qui? Quel rôle pour la Turquie, pour l'Arabie Saoudite, pour l'Iran, évidemment, on en a beaucoup parlé, qui, d'une certaine manière, revient aussi un peu dans le jeu diplomatique. Alexandra Dobscheffer.
Ce qui sera très important pour Obama, et on l'a vu, il va essayer de répliquer un petit peu la manière dont il a construit sa coalition quand il s'agissait de répondre aux problèmes en Libye en 2011. C'est-à-dire qu'il va essayer de construire d'abord un soutien régional, parce que sans soutien d'alliés régionaux, la légitimité, disons, de l'action, et surtout lorsqu'il s'agit d'une action militaire, est beaucoup moindre.
Donc c'est ses alliés, c'est l'Arabie Saoudite,
c'est
la Jordanie.
C'est la Jordanie, c'est bien sûr la Turquie.
On sait aussi qu'elle joue un double jeu, cette Turquie, donc ça va être compliqué.
En fait, ce que vous voyez, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que que ce à quoi on est en train de faire face aujourd'hui, c'est l'échec total en fait de cette guerre contre le terrorisme que Bush et qu'Obama n'a cessé d'amplifier ces dernières années. Ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est que les Américains s'attaquent finalement aux symptômes, aux conséquences de la non-gestion de cette menace terroriste. Pourquoi ? Parce que cette menace terroriste, cet extrémisme, ce djihadisme, et on le sait très bien depuis des années, financé, équipé, armé, indirectement ou directement, par les alliés les plus proches des Américains dans la région. Vous avez dit l'Arabie Saoudite, il y a aussi le Koweït, il y a aussi le Qatar. Il y a bien sûr la Turquie qui joue un double jeu. Donc justement, quand vous parlez de coalition, eh bien, la plus grande difficulté pour Obama aujourd'hui, c'est comment constituer cette coalition. Parce que vous avez ces alliés qui ont joué ce rôle-là. Alors là, on voit depuis quelques semaines seulement l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, qui reviennent un petit peu sur leur politique d'aide justement à l'État islamique. Pourquoi ? Parce qu'ils se rendent compte que ça va avoir bien sûr des conséquences sur leur propre territoire. Donc là, effectivement, qui va faire partie de cette coalition ? Alors je pense qu'on verra effectivement ces alliés à double jeu, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, etc., Jordanie, au sein de cette coalition, parce que c'est une coalition, je dirais, de circonstances. Il s'agit de faire face à cette menace-là. Mais cette coalition aura une, je dirais, une existence que de très très court terme. Ensuite, chacun finalement jouera ses cartes, aura sa propre stratégie. La stratégie et les objectifs de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie ne sont pas du tout les objectifs des Américains. Ensuite, les Américains vont essayer, et c'est déjà en train de se construire, de trouver des alliés du côté, je dirais, de l'Occident, de l'Europe. On voit que le dernier pays qui a rejoint les Américains dans l'effort d'assistance militaire au Kurdistan, c'est l'Australie, par exemple. La France a été l'une des premières aussi.
L'Allemagne.
La Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne qui a fait un grand effort. Vous avez des pays.
C'est une première pour l'Allemagne, c'est un vrai tournant.
Bien sûr, c'est un vrai tournant. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce vrai tournant dans la politique allemande ? C'est que ce groupe d'État islamique a la capacité de happer également de plus en plus d'Européens, d'Occidentaux dans leur mouvement. On voit très bien que les États-Unis, la France, tous ces pays-là font face à une menace qui peut ensuite revenir sur leur territoire. Et c'est pour ça qu'il y a urgence.
France Culture, Culture Monde,
Florian Delorme.
Culture Monde, 11h passées de 26 minutes. Vous êtes sur France Culture, on parle toute cette semaine de la menace djihadiste avec Alexandra Dehoub-Scheffer, avec nous en plateau également Myriam Benrad, qui est avec nous en duplex depuis Aix-en-Provence. Justement, Myriam Benrad, je voudrais me tourner vers vous à présent et évoquer cette question de la coalition. Vous voyez quelle coalition et est-ce qu'elle vous paraît possible aujourd'hui, compte tenu, une fois encore, eh bien, la divergence des intérêts. Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Je pense par exemple à l'Iran, je pense à la Turquie aussi avec son petit double jeu. On se souvient du Premier ministre à l'époque, hein, puisque maintenant il a été élu à la présidence, mais Erdogan qui disait qu'il n'avait pas trop l'intention de provoquer l'État islamique. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir rassembler tout ce petit monde autour d'une coalition ? Est-ce que ça vous paraît possible, Myriam Benrad ?
Écoutez, je ne vais pas répéter ce qu'Alexandra Dehoub-Scheffer a dit. Il est vrai que cette coalition, on voit une mobilisation au niveau occidental qui est très claire. Les Occidentaux, en ce qui les concerne, prennent conscience des effets potentiellement délétères que la situation au Moyen-Orient
à ce niveau-là, on se dit que la coalition est possible. C'est plus vraiment à l'échelle régionale. Et une fois encore, je pense à la Turquie,
alors,
je pense à l'Iran.
Au niveau régional, il faut être très clair. Ces États périphériques, donc vous mentionniez l'Iran, on peut parler de l'Arabie Saoudite, d'un certain nombre d'autres monarchies du Golfe, de la Turquie, voire même, dans une moindre mesure, de la Jordanie, de l'Égypte. Les États qui entourent la Syrie, enfin l'Irak et la Syrie, ont vu d'un très bon œil l'affaiblissement de ces États, et notamment de l'Irak, qui était, il faut quand même le dire, le poids lourd régional au Moyen-Orient, on peut dire jusqu'à la guerre du Golfe. Bon. Donc un certain nombre d'acteurs ont vu d'un très bon œil l'effondrement du régime de Saddam Hussein. Et de ce point de vue, les Iraniens comme les Saoudiens voyaient dans cette chute du parti Baas en 2003 la mort finalement de leur ennemi viscéral qui était Saddam Hussein. Donc par la suite, ces États se sont livrés des guerres par procuration, qu'il s'agisse de l'Irak ou plus récemment de la Syrie. Et l'État islamique, finalement, étant, je pense, indirectement, un peu le monstre la mauvaise conscience de ces États, en quelque sorte, qui ont, comme le disait très justement Alexandra de Hubschefer, contribué même indirectement à l'émergence de cette organisation, en la finançant soit directement, en soutenant ses effectifs par le biais de combattants qui pouvaient, par exemple, transiter par la Turquie, jusqu'à un certain point aussi par la Syrie, il faut le rappeler, parce que le régime d'Assad lui-même a joué un jeu très cynique en laissant beaucoup de combattants aller vers l'Irak combattre l'armée américaine pendant l'occupation, et puis ensuite les autorités irakiennes, puisqu'il y avait une rivalité ancienne entre ces deux pays même. Aujourd'hui, ces États se rendent compte finalement que l'État islamique, donc ce monstre, cette machine de guerre qu'ils ont indirectement ou directement contribué à créer, leur échappe. On le voit très bien, par exemple, en ce qui concerne les Saoudiens. Il y a des divisions assez importantes, puisque on sait qu'un certain nombre de sponsors ont soutenu l'État islamique. L'establishment saoudien est aujourd'hui très divisé. Et il y a eu un déploiement de forces armées à la frontière avec l'Irak, ce qui renvoie bien à la crainte des autorités saoudiennes quant aux effets de la contagion djihadiste. Il en va de même pour l'Iran, qui se sent assez largement débordé et qui a réarmé, remobilisé les milices chiites en Irak au moment où les djihadistes annonçaient qu'ils comptaient s'emparer de Bagdad. Les Turcs aussi.
Et alors, justement, sur l'Iran, vous les voyez rentrer dans une coalition ? Parce que vous avez raison. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères iranien, Javad Zarif, a dit que Téhéran était prêt à participer à une lutte générale, à une coalition, pourquoi pas, contre l'État islamique, mais à condition d'obtenir, bien sûr, des avancées sur la question du programme nucléaire. Alors, est-ce qu'on pourrait justement imaginer quelque chose comme ça ? Un accord avec vous nous aider pour lutter contre l'État islamique. Et en revanche, nous, on fait quelques concessions sur le programme nucléaire. Vous voyez ça, vous ?
Pour l'instant, non, parce qu'il y a découplage des deux dossiers au niveau occidental. Ça a toujours été très clair. La question nucléaire doit être traitée comme telle et n'implique pas le dossier plus régional. Donc, il est vrai que les Iraniens essaient de jouer
là-dessus. Mais ça pourrait changer,
là-dessus.
Non ?
Pour l'instant, je ne crois pas. Moi, je ne vois pas, en tout cas, d'évolution dans ce sens-là. D'autant qu'il faut quand même pas oublier qu'un certain nombre d'acteurs, au-delà de la rhétorique qui est celle des Iraniens, admettent que l'Iran est loin d'être une force stabilisatrice au Moyen-Orient. Mais évidemment, les Iraniens jouent leur carte. De la même manière que les Saoudiens le font, que les Turcs le font. Encore une fois, il y a des jeux d'acteurs autour de tout cela qui rendent éventuellement possible une coalition de court terme contre l'État islamique, puisque, je l'ai dit, cette machine de guerre qui est devenue cette organisation djihadiste leur échappe et menace aujourd'hui directement leurs intérêts. Mais on parle vraiment, encore une fois, d'alliances de court terme, de circonstances. Moi, je ne vois pas de mobilisation, en tout cas pas pour le moment, de mobilisation régionale conséquente contre l'État islamique. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, ces États ont leurs intérêts propres. Et parce que fondamentalement, à mon avis, ils n'ont pas encore senti sur leur propre territoire les effets désastreux de cette avancée djihadiste. Alors, est-ce qu'il faut, par exemple, qu'il y ait des attentats dans un certain nombre de ces pays pour qu'ils réalisent enfin la nécessité, effectivement, de trouver une issue régionale ou de favoriser un dialogue régional pour essayer de résoudre ces crises ? Mais même cela ne suffira pas, parce que ce que je vais quand même ajouter, et je finirai là-dessus, c'est que l'État islamique, c'est aussi une création assez largement irakienne qui s'est exportée vers la Syrie, qui s'est réexportée vers l'Irak, mais la solution, elle est aussi profondément irakienne pour ce qui est donc de l'Irak, profondément syrienne pour ce qui est de la Syrie. Donc même un dialogue régional aujourd'hui, compte tenu de la détérioration de la situation, à mon avis, ne suffira pas à endiguer le problème. Et on le voit aussi aujourd'hui avec la mobilisation des Occidentaux qui, eux aussi, sont directement maintenant concernés.
Alexandra de Hubschefer, évidemment, cette question de l'Iran, de savoir s'il pourrait et comment participer à une coalition, il y a beaucoup, beaucoup de résistance et c'est un euphémisme du côté de Washington.
C'est comme la Syrie, en fait, où Assad dit, je suis tout à fait prêt à coopérer avec les Américains pour lutter contre l'État islamique. Donc, ils se mettent tout d'un coup dans une position, en fait, de, je dirais, la politique inversée de la main tendue d'Obama. C'est eux qui, maintenant, tendent la main vers Obama et qui disent, on est prêt à offrir. C'est une position extrêmement confortable. probable. Je dirais que le scénario idéal, par exemple, pour quelqu'un comme Bachar al-Assad, ce serait que les Américains décident de déployer des forces aériennes contre l'État islamique sur le sol syrien, que lui assiste à tout ça et que finalement, ça le libère de cette menace-là et qu'il puisse, pendant ce temps, écraser les rebelles, disons, plus modérés. Donc, ce serait une solution idéale pour lui. Mais pour revenir et pour regarder peut-être de manière un peu plus prospective sur ce qui se passe dans la région, je dirais qu'avec un leadership et surtout une influence politique américaine qui s'amoindrit au jour le jour, on le voit, les Américains n'ont plus du tout le contrôle des événements, ne sont plus du tout écoutés dans la région, y compris par leur plus proche allié qui est quand même Israël. On l'a encore vu avec les déclarations de colonisation, etc. et les Américains qui disent ne le faites pas et puis on a l'inverse. Donc avec cette voix américaine qui se trouve complètement affaiblie, ce qu'on va voir, et la Libye à ce sujet est un très bon exemple, c'est que les alliés traditionnels des Américains dans la région, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, etc., vont commencer à diversifier leurs alliances et à s'organiser de manière intra-régionale. On le voit par exemple avec les Émirats Arabes Unis, appuyés par l'Égypte, qui vont par exemple déployer des frappes en Libye pour lutter contre les islamistes, parce qu'ils ont peur que ça déborde sur leur territoire et que ça ait des conséquences incontrôlables. Les Américains, soi-disant, n'étaient pas au courant de ces frappes, mais c'est un exemple et pour moi le début d'une réorganisation au niveau régional de ces acteurs-là en l'absence d'un leadership américain.
On va en parler justement dans un instant de la Libye, la riposte des États. Première série de cette cinquième saison de Culture Monde. Myriam Benrad, Alexandra Dubschaeffer sont nos invités ce matin.
Combat d'une violence inouïe près de l'aéroport de Tripoli.
Il avait prévu le chaos, les faits lui donnent aujourd'hui raison. 3 ans après la chute de Muammar Kadhafi, la Libye s'embrase.
Roquettes, armes lourdes, les miliciens ne manquent pas de moyens.
Les États-Unis, avec d'autres pays, dont la Turquie, ont décidé de partir à cause du déchaînement de la violence des milices à Tripoli, qui présente un risque réel pour notre personnel.
Et oui, la Libye, justement, depuis plusieurs mois, la Libye est le théâtre de violences de plus en plus meurtrières, tensions claniques, tribales, confessionnelles. La transition démocratique tant espérée après la chute de Kadhafi semble loin, très loin. D'ailleurs, la prise de contrôle par des miliciens ces dernières heures de l'ambassade américaine évacuée en juillet dernier est l'un de ses symboles. On va retrouver un nouvel invité par téléphone, c'est Patrick Hemzadeh. Bonjour Patrick Hemzadeh.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Ancien diplomate en Libye, puis auteur, je l'indique pour les auditeurs, de Au cœur de la Libye de Kadhafi, c'était chez Lattès en 2011. C'est vrai, cette actu, on en parlait à l'instant, le gouvernement provisoire d'Abdallah Al-Thani, qui assurait l'intérim depuis la destitution en mars d'Ali Zeidan, a présenté sa démission, c'était jeudi dernier. Et puis, c'était aussi ces raids aériens qui ont visé des milices islamistes. Des responsables américains ont d'abord affirmé qu'elles étaient le fait des Émirats Arabes Unis et puis de l'Égypte. L'information, évidemment, n'a pas été confirmée par les concernés. On a ce général Haftar dont on va parler ensemble aussi, Patrick Hemzadeh, qui lui avait lancé, on en avait parlé ensemble à ce micro il y a quelques mois, une offensive contre des milices islamiques. Lui les a revendiquées, bien que a priori ses troupes n'ont quand même pas les moyens de faire ce genre de choses. Pas de doute sur l'origine des frappes, c'est bien l'Égypte et les Émirats, Patrick Hemzadeh ?
Écoutez, ce qui est certain, c'est que les pilotes libyens n'ont pas les capacités de mener des frappes telles qu'elles ont été conduites, notamment de nuit. Donc on peut penser effectivement à des avions émiriens. Alors je rappelle que les émiriens ont des Mirage 2000-9 qui sont vraiment les avions les plus sophistiqués que la France leur ait vendus. Donc ils sont en mesure, effectivement, moyennant un soutien en renseignement que l'Égypte a pu fournir, d'effectuer ce type de frappe.
Bon, alors, et l'Occident est au courant, consulté, prévenu
Écoutez, consulter, il faudrait leur poser la question, mais en tout cas, informer. Et on a la plus grande base française au Moyen-Orient, aux Émirats, et c'est nous qui formons et encadrons directement les pilotes émiriens. Donc on ne peut pas ne pas être au courant si des avions de combat émiriens ont décollé pour se rendre en Égypte et conduire des actions de ce type.
Il y a quelques semaines, Patrick Hemzadeh, je le disais, le général Haftar a lancé une offensive contre un certain nombre de groupes islamistes sur le terrain. Quel bilan est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui, ce fameux général Haftar qui, alors, faut le rappeler, était d'abord un partisan de Kadhafi, je dis ça, c'est il y a plus de 40 ans, avant d'être finalement un des plus fervents opposants. Quel bilan est-ce qu'on peut faire de tout ça? Est-ce que ce général Haftar aussi, c'est un atout ou pas pour les Occidentaux, voire carrément le bras armé de l'Occident sur le terrain? Comment sentir les choses, Patrick Hemzadeh?
Écoutez, d'abord, les grilles de lecture, l'Occident, armée, les islamistes, etc. Moi, je me souviens, j'étais à votre antenne il y a quelques mois, juste après le début de l'offensive d'Eftar. J'avais dit, Eftar n'a pas les moyens de gagner, mais il a les moyens de plonger le pays dans la guerre civile. Donc, effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il faut quand même rappeler que c'est lui qui a interrompu le processus, disons, politique qui était en cours en lançant cette attaque. Donc, maintenant, effectivement, et je crois qu'il faut avoir ça à l'esprit. Et en tout cas, il a effectivement contribué à polariser la situation, à bipolariser, c'est-à-dire que maintenant, il y a clairement deux camps et on est dans un schéma de guerre civile. Alors, militairement, il est en train de perdre la partie. Hein. Il l'a perdu à Tripoli, il l'a en grande partie perdu déjà à Benghazi, et ce qui explique pourquoi ses alliés, les Émirats, peut-être l'Arabie Saoudite et l'Égypte, ont lancé ces radariens. Mais encore une fois, ça n'aura pas de conséquences, décisives sur le terrain.
Quand vous dites deux camps, Patrick Hamzadeh, ça veut dire quoi? Parce que je crois que vous êtes contre cette idée, au fond, d'une division un peu simpliste, islamiste versus nationaliste. Vous dites d'ailleurs, c'est dans un papier que j'ai lu de vous il y a quelques jours, que cette guerre civile qui a lieu aujourd'hui en Libye glisse peu à peu vers une fracture nord-sud, avec d'un côté des populations majoritairement d'origine côtière et citadine, dites-vous, et de l'autre des populations tournées vers la tradition bédouine. C'est quoi ces deux camps?
Écoutez, c'est le cas en tout cas à Tripoli. Les deux camps, c'est pour ça que c'est parce qu'il y a beaucoup d'alliances de circonstances. On n'est pas dans l'idéologie pure et dure. Alors ce qu'on peut dire, c'est que Eftar, au départ, en s'appuyant sur des milices tribales, que ce soit à l'est ou à l'ouest. À l'ouest, on a beaucoup parlé des Intan, a voulu reprendre le contrôle contre ce qu'il estimait être les milices islamistes. Alors, dans les milices islamistes, alliés à ces milices islamistes, entre guillemets, qui aussi ne sont pas des djihadistes, on n'est pas du tout dans le cas de l'Irak, ce sont des gens qui sont des nationalistes, qui ont un ancrage local important et une vraie légitimité révolutionnaire, puisque c'est quand même les premiers combattants qui ont pris les armes en février 2011 et qu'à l'époque on a soutenu massivement pendant la guerre de 2011. Donc ces gens-là, effectivement, estiment qu'ils ont une vraie légitimité. Alors on compte aussi les milices de Misrata, qui, c'est une grande ville, la troisième ville du pays, et qui est une ville de tradition notable, commerçante, tournée vers la Turquie aussi, parce qu'il y a beaucoup de familles d'origine ottomane, contrairement aux milices Intan, qui sont plutôt des gens de la montagne et du sud. Donc, je dis pas que c'est une nouvelle grille de lecture, mais là, on a des mentalités qui sont extrêmement différentes. Et à Benghazi, on a aussi un petit peu le cas entre ces milices dites islamistes, qui sont plutôt des citadins ou des gens originaires d'ailleurs parfois de Misrata, et des milices plus de tradition bédouine, qui sont les gens qui soutiennent Eftar et qui sont retranchés dans la montagne verte à l'est de Benghazi. Donc je dis pas que c'est une grille de lecture décisive, mais en tout cas c'est pour un petit peu contrebalancer cette analyse qu'on aurait des islamistes contre des nationalistes, parce qu'il est bien clair que les islamistes libyens se considèrent comme nationalistes et n'ont absolument pas envie ou pour l'instant le souci de s'intégrer dans des processus comme Al-Qaïda, ce qui bien sûr est évolutif. S'il devait y avoir une intervention étrangère contre eux, ça radicaliserait vraisemblablement leur position.
Patrick Hamzadeh, avant de faire réagir nos invités, la question des rapports entre Haftar et les États-Unis. Parce que pendant un temps, quand Kadhafi était au pouvoir, les Américains s'étaient dit que peut-être, on pourrait lancer une grande offensive terrestre contre le guide libyen. Et Haftar, c'était l'homme de la situation. Il s'était dit que peut-être il pourrait, lui, lancer ce grand projet. Alors ça a été un échec. Haftar, il a été obligé de fuir, on en avait parlé. Il était passé de pays en pays avant finalement d'atterrir du côté des États-Unis. Quels sont aujourd'hui, les liens entre les autorités américaines et Haftar, et est-ce qu'il est raisonnable de penser que les Américains soutiennent discrètement, mais ce général pour tenter justement de contenir ces milices islamistes?
Là aussi, c'est extrêmement ambigu. On en avait parlé il y a quelques mois à votre antenne. Quand Haftar a lancé son offensive, il n'y avait pas eu de dénonciation de cette action par les États-Unis. L'ambassadrice américaine en Libye avait même dit qu'il fallait éviter au maximum les victimes civiles, mais sans dénoncer ce coup de force.
Donc c'est une hypothèse.
Bah, En tout cas, il se peut qu'effectivement les États-Unis aient plusieurs cartes au feu et pensé qu'Eftar avait les moyens de rétablir. Alors Eftar s'appuie aussi sur tout un réseau d'anciens officiers kadhafistes, donc c'est vrai qu'il est discrédité aux yeux d'une bonne partie de l'opinion libyenne. Si c'est le pari qu'ils ont fait, effectivement, c'est un pari qui s'avère extrêmement risqué, puisqu'encore une fois, on est vraiment de plus en plus dans un scénario de guerre civile.
Alexandra Dubcheffer, est-ce que c'est une hypothèse qui vous semble plausible, cette idée selon laquelle, au fond, les Américains, très discrètement, un peu comme ça, soutiennent ce général Haftar, en oubliant tous ces grands projets de démocratisation, et je mets des guillemets, de la Libye, en disant finalement, voilà, l'urgence, on va essayer de répondre à l'urgence, qui est ce danger islamiste, il y a ce général qui est sur place, pourquoi pas le soutenir un peu, ça irait dans la ligne, dans la stratégie américaine.
Ce ne serait pas une stratégie, ce serait une tactique finalement de très court terme, parce que là on est vraiment dans la, je dirais, la...
Mais ça vous semble cohérent avec la vision de l'administration Obama ?
C'est pas que ça semble cohérent, c'est que les États-Unis, en fait, pour agir sur le terrain, parce que cette bataille-là se gagne sur le terrain et non pas dans l'air, hein, par les frappes aériennes, ça ne suffit pas, il faut forcément trouver des relais locaux sur lesquels s'appuyer. Alors ce sont des alliés qu'on pourrait caractériser de plus qu'imparfaits, puisque souvent ils balancent d'un camp vers l'autre, l'un après l'autre. On l'a vu d'ailleurs en Libye, où par exemple les Américains, mais aussi l'ensemble des diplomaties occidentales, ont finalement voulu fermer un peu les yeux sur la composition de ce qu'on appelait les rebelles à l'époque, qui se rebellaient contre le régime Kadhafi. Et finalement, il s'avérait qu'ils étaient très largement infiltrés par des groupes appartenant à Al-Qaïda. Et la conséquence a été, comme vous le savez, l'attentat à Benghazi qui a tué l'ambassadeur américain en septembre 2012. Alors qu'en Irak, ça a été l'inverse. Les Américains ont amplifié la menace à Al-Qaïda, ce qui a donné à Al-Qaïda une importance qu'elle n'avait pas au départ et elle n'a cessé de s'agrandir. Donc je dirais que oui, ce ne serait pas cohérent, mais disons que ce serait un peu la solution par défaut, puisqu'il faut absolument trouver des moyens de s'appuyer sur certains acteurs. C'est ce qu'ont fait les Américains en Irak en armant et en finançant ces milices sunnites à l'époque en 2006-2007 pour combattre Al-Qaïda et rééquilibrer le rapport de force avec un gouvernement majoritairement chiite. Donc ils font ça un peu partout. En Syrie, c'est encore plus compliqué. Je dirais que ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle toujours l'armée libre syrienne est un petit peu aujourd'hui la victime justement de ce qui s'est passé en Libye. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en Libye, on s'est appuyé sur des rebelles mais qui étaient largement infiltrés par des groupes rattachés à Al-Qaïda. Aujourd'hui, on voit que les rebelles modérés en Syrie peut-être n'existent pratiquement plus et qu'il est difficile finalement de trouver des relais modérés ou qui iraient dans le sens des objectifs américains et occidentaux. Et d'ailleurs, la France aussi, dans un premier temps, avait hésité à envoyer des armes à ces rebelles modérés syriens, parce qu'il y a eu des preuves qui se sont ensuite retrouvées dans les mains des extrémistes. Voilà, donc il faut faire attention. Et en Libye aussi, on voit très bien que l'intervention au Mali a également été, je dirais, une des conséquences, je dirais, de l'intervention en Libye, puisqu'on retrouve les armes également au Mali.
Patrick Hamzadeh, vous vouliez réagir ?
Oui, je voulais réagir parce que, en fait, j'ai bien veillé tout à l'heure à distinguer ces milices d'obédience islamiste avec des milices proches d'Al-Qaïda. Et là, je maintiens ma position. Je crois qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Il y a, comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont, et je connais une partie des acteurs, ce sont des gens qui sont profondément ancrés dans le tissu social libyen, qui ont des relations avec les chefs de tribu. Et qui ne sont pas des gens effectivement proches d'Al-Qaïda. Donc je crois que là aussi, faire le pari d'une victoire militaire contre ces gens-là, c'est un pari extrêmement hasardeux qui ne fera que prolonger cette guerre civile. Il faudra un jour ou l'autre les intégrer dans le jeu politique. C'est eux qui, sous une forme qui reste à définir, d'ailleurs ils sont prêts à jouer ce jeu de l'intégration. Mais encore une fois, la diabolisation ne fera que radicaliser leur position. Si l'Occident soutient ouvertement le général Haftar.
Et pour prolonger cette comparaison entre l'État islamique, la situation en Irak et en Syrie et la Libye, est-ce qu'il serait possible à vos yeux, en quelques mots, on est presque au terme de l'émission, mais de voir des islamistes radicaux annoncer la naissance d'un califat, dans quelle mesure finalement le scénario irakien pourrait se reproduire en Libye selon vous?
Oui, s'il devait y avoir une poursuite de cette guerre et surtout une internationalisation du conflit comme c'est en train de le devenir, avec l'intervention des Émirats, de l'Égypte et de l'Arabie aux côtés de des troupes d'Eftar, bien sûr, on pourra avoir une stratégie indirecte. La montée en puissance de groupes radicaux, voire djihadistes, hein, puisque bien sûr, comme dans le monde entier, il y en a, hein, il y en a même en France des djihadistes, donc il y en a aussi en Libye, et c'est effectivement un risque. Hein. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais encore une fois, si on intervient, si on prend position pour soutenir l'offensive d'Eftar, on aura ce type de réaction.
Merci beaucoup Patrick Hamzadeh d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle votre livre Au cœur de la Libye de Kadhafi, c'était chez Lattès. Un grand merci également à notre invité qui était en duplex depuis Aix-en-Provence, c'est Myriam Benrad qui est chercheuse associée aux séries Sciences Po. Nul doute qu'on aura l'occasion de vous réentendre Myriam Benrad sur cette antenne. Et puis un grand merci également à Alexandra de Hubschefer qui était elle avec nous ici en plateau. Je rappelle votre livre Alexandra de Hubschefer, c'est Hamlet en Irak, c'était aux éditions du CNRS. Merci à toute l'équipe de Culture Monde, Xavier Martinet, Tiffaine de Roquigny, Clément Salazar, Vincent René ce matin à la technique et Perret Legras à la réalisation.